Radio Galaxy 98.5.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci de nous rejoindre, bienvenue sur le 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain, et nous sommes dans le Volvestre et nous restons dans le Volvestre pour l'instant parce que je suis ici avec le nouveau président de la communauté de communes du Volvestre, accompagné de sa directrice générale des services, Éric Salat, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Galaxy, puis je sais, et du Volvestre principalement. Et je sais aussi par ailleurs que vous êtes écouté très loin.
Oui, c'est voilà. Tout à fait vrai, dans les autres communautés de communes et les autres parties du sud de Toulousain. Et Claire Perroton, donc la directrice générale de cette communauté, bonjour.
Bonjour.
Éric Salat, nouveau président, président nouvellement élu sur cette communauté de communes, mais ce n'est pas quelque chose d'inconnu, vous étiez aux finances avant.
Oui, c'est un poste effectivement assez chronophage et qui m'a permis de découvrir vraiment la communauté des communes sur tous ces aspects, sur toutes ces compétences, mais bon, avec le volet financier. Mais il n'y a pas que le volet financier qui m'avait intéressé durant cette précédente mandature.
Éric Salat, pour les gens qui ne vous connaissent pas forcément, qu'est-ce qui vous a amené en politique, vous ?
Ah bon, c'est un intérêt particulier sur mon petit territoire, qui est Mauzac. À ma connaissance, ma famille y est depuis 5 générations. J'ai été très vite impliqué dans les activités sportives et ludiques du village. Je m'y suis attaché avec beaucoup de personnes, et puis bon, après un jour, il y a eu l'opportunité de siéger au conseil municipal, et puis un jour, l'opportunité aussi de postuler à ce superbe mandat de maire que j'exécute depuis 2008.
C'est dur d'être maire d'un petit village comme Mauzac, ça demande beaucoup de travail.
Ouais, mais vous savez, quand c'est le cœur qui dirige, que c'est la passion, on est moins dans le calcul de l'implication.
Alors, maire de Mauzac, donc maintenant président de la communauté de communes du Volvestre, il y a une grosse différence de responsabilité, de quantité de travail ?
Il y a effectivement une grande quantité de travail supplémentaire. Et c'est un mandat très différent, très différent. On a bien sûr la légitimité à travers le mandat de maire, mais dans une intercommunalité, il faut être dans une démarche beaucoup plus consensuelle et il faut laisser personne sur le bord du quai, du train. Il faut y aller tous ensemble.
Ça sert à quoi les intercos ?
Question très pertinente, surtout que moi, historiquement, j'étais pas un pro interco. Mais aujourd'hui, j'en conviens, c'est devenu un outil qui est très utile pour toutes nos communes, dans la mesure où c'est un outil de coopération. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de cette structure une supra-structure qui dicte et qui organise tout. Non, du tout. C'est une structure publique où les maires et les collectivités doivent l'utiliser comme un outil de mutualisation. Et c'est par ce biais-là qu'on a la compétence et l'intérêt de développer et d'optimiser tous les services qu'on peut déployer.
Pourtant, au niveau de l'État, la préfecture en particulier, donne de plus en plus d'autorité aux communautés de communes face aux communes.
Oui, il est content aussi d'avoir les intercommunalités pour pouvoir abandonner beaucoup de services publics qu'il n'assume plus. Et aujourd'hui, le réceptacle qui peut aider toujours nos concitoyens à avoir des services publics de proximité, je pense à France Service que nous finançons à pratiquement 80%.
90%.
Merci Claire pour la précision. C'était des services historiquement qui étaient uniquement financés par l'État. Donc je pense que le réceptacle de l'intercommunalité aussi est un aspect un peu magique pour le gouvernement.
Pendant longtemps, les intercos ont été une espèce de boîte noire pour le citoyen, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancré dans la culture avec de nombreux services. Parmi ces services, Claire Perroton, la directrice générale des services, quelles sont les compétences, quels sont les services dont s'occupe une communauté de communes ?
Alors, une communauté de communes, elle a des compétences obligatoires qui sont dévolues par la loi et puis des compétences supplémentaires qui sont définies par accord des communes. Et donc, nous, en Volvestre, on a notamment en compétences l'aménagement du territoire, les déchets, la voirie, la petite enfance ou encore le plan climat-air-énergie où on accompagne le territoire pour le rendre plus résilient.
Quand vous dites vous accompagnez le territoire, ça veut dire quoi ?
Sur le plan climat-air-énergie territorial, par exemple, eh bien, on met en place un plan d'action en collaboration avec des partenaires tels que le PETR ou encore des entreprises. Et on espère, dans ce prochain mandat, associer les communes pour mettre en place des actions très concrètes pour réduire l'empreinte carbone, pour rendre nos activités, nos usages plus vertueux, pour répondre aux défis climatiques qui se présentent à nous aujourd'hui.
Monsieur le Président, vous disiez tout à l'heure que c'est de la coopération, que l'État s'est désengagé de beaucoup de choses. Comment maintenir une qualité de service sur un territoire comme une communauté de communes, sachant que les charges sont de plus en plus lourdes, d'une part, et deuxièmement, les citoyens ont l'impression qu'il y a de moins en moins de services?
Vous êtes en train de résumer l'enjeu de ce mandat. Effectivement, c'est demain faire mieux avec moins. Donc c'est quand même facile à dire, mais difficile à exécuter. C'est une grosse besogne que nous avons devant nous, mais pour ça, on a quelques voies quand même d'économie à faire, on a quelques voies d'optimisation aussi, sans surfiscaliser. On a besoin aussi d'avoir des plans d'action qui soient beaucoup plus travaillés. Je parle sur les plans pluriannuels de fonctionnement et d'investissement. Il faut avoir un pilotage à terme, et puis il faut devenir agile, et puis il va falloir être malin, quoi. Il va falloir trouver des ressources, parce qu'aujourd'hui, l'inquiétude, c'est que nous dépendons d'une grande partie de nos ressources, des compensations de l'État, qui, elles, appliquent des coefficients correcteurs qui nous font baisser ces recettes-là de compensation que nous n'avons plus. Donc, le problème de la ressource va nous obliger à, quand je dis être inventif et agile, c'est trouver des alternatives et surtout optimiser les choses qui sont les plus chères, les plus dures à assumer, comme la gestion des déchets. Il y a des choses qu'il faut optimiser éventuellement.
Revenons sur la gestion des déchets dont vous parlez à l'instant, par exemple. Aujourd'hui, tous les déchets du Volvestre partent dans le Saint-Gaudinois.
Exactement.
Pour de l'enfouissement.
Tout à fait.
Et donc, ce sont des choses qui sont en plus très très chères.
Et de plus en plus chères.
Et de plus en plus chères.
Notamment avec l'augmentation de la TGAP, la taxe sur les activités des pollueurs. C'est une trajectoire exponentielle. On est à 65 euros la tonne aujourd'hui, enfouie. Et demain, on va quasiment doubler. Quand je dis demain, c'est 2030.
Sachant que, en plus, la loi est en train de changer et qu'il y a avoir une obligation de ne plus enfuir ou de diversifier encore ou d'optimiser ou de mieux travailler les déchets.
Et c'est toute la difficulté puisqu'il faut qu'on travaille des filières de tri. Et je prends un exemple très concret pour les citoyens aujourd'hui, notamment les bornes relais. Le relais, c'est les bornes de collecte du textile. Et bien aujourd'hui, avec la fast fashion, ce recycle...
Fast fashion.
Ce système de textile pas cher produit en grande masse, eh bien aujourd'hui, ce collecteur qu'on appelle le relais n'est plus en capacité de collecter nos déchets textiles. Et sur le Volvestre, tous nos points de collecte ont été enlevés depuis le 1er juin, hormis 4 points. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi des problèmes très concrets. Comment font les gens qui souhaitent aujourd'hui jeter leur textile? Ça risque de partir dans la poubelle grise et donc ça ne va pas être trié, ça ne va pas être valorisé, ça va partir à l'enfouissement. C'est des cas très concrets sur lesquels nous butons aujourd'hui.
Peut-être parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de matière pour que des systèmes de collecte se mettent en place ou de...
Là, c'est clairement un système économique qui est vacillant et qui n'est pas viable.
Mmh. Alors ça, c'est la problématique des déchets. Il y en a d'autres aussi comme problématique. Nos routes.
Ah non, nos voiries. 620 ou 30 km sur notre intercommunalité... Ça représente un budget, je vais parler à la louche, pratiquement $1,2 million par an d'entretien dans ces eaux-là. Nous avions historiquement un cofinancement de 50% du département, qui aujourd'hui, malheureusement, lui aussi, sous tutelle des compensations de l'État, ne peut plus assumer cette participation. Donc on se retrouve avec un budget divisé par deux pour l'investissement sur nos voiries, avec l'état des lieux qui fait qu'on ne va pas diminuer les kilomètres, c'est pas possible. Bien au contraire, on fait face souvent à des intempéries qui nous portent beaucoup plus de soucis pour l'entretien. Voilà. Quand je disais qu'il fallait être malin et ingénieux, ça veut dire que demain, il va falloir voir comment ça se passe ailleurs, parce qu'il y a d'autres départements qui n'avaient pas cet avantage-là. Donc, il faut essayer de tirer l'exemplarité de la manière dont il fonctionne pour voir si on peut le décliner chez nous. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons avoir un budget divisé par deux.
Quand vous dites d'autres départements qui n'avaient pas cet avantage-là, ça veut dire que des départements qui étaient autonomes.
Il y a des départements où il n'y a pas de cofinancement du département. Donc, ils sont habitués à fonctionner sans cette manne financière. Et ça a l'air de fonctionner.
Avec une grosse difficulté, c'est de maintenir cette cohérence territoriale. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont plus abîmés que d'autres, j'allais dire, parce qu'il y a plus de circulation par la voirie. Sans non plus isoler ces routes des communes et des petits villages où il y a très peu de voitures, mais qui ont autant de droits que les autres.
C'est tout à fait le cas aujourd'hui, c'est que nos techniciens doivent inventorier, faire le point sur ces espaces-là et voir lesquels il faut prioriser et lesquels il faut entretenir un peu plus avec beaucoup plus de suivi. Bon, mais c'est un travail de technicien, ça. C'est le gros aujourd'hui de l'œuvre qu'il faut établir et réaliser, c'est d'arriver à faire aussi bien avec deux fois moins. Si ça n'existait pas ailleurs, je vous dirais, ça relève du miracle. Mais donc ça existe ailleurs, il faut essayer de voir comment il faut.
D'où l'intérêt là cette fois-ci donc, du rôle de l'Interco et d'avoir tous ces maires et tous ces élus locaux qui connaissent chacun leur territoire et de travailler en bonne intelligence, j'imagine.
À mes yeux, c'est l'axe majeur de la cohérence de notre collectivité. On n'en a pas parlé, mais c'est dans la gouvernance. Se dire qu'on crée un bureau qui requiert en son sein tous les maires et les vice-présidents, c'est une écoute permanente et un échange permanent avec les maires et de déterminer le cap ensemble et d'être très cohérent parce qu'en fait, les maires de nos collectivités, ils sont au jour le jour au courant des urgences et ils peuvent les restituer très rapidement puisqu'ils sont dans une gouvernance très rapprochée.
C'est ce que vous disiez en début d'émission, donc c'est-à-dire que la communauté de communes est un outil au service des mairies qui sert d'interface et de mutualisation.
C'est le point de rencontre qu'on s'est tous fixé, c'est-à-dire que c'est un outil de coopération des communes, pour les communes, mais c'est surtout au service et pas l'inverse.
C'est ça, l'Interco ne va pas remplacer les mairies.
Non. Et puis il faut surtout pas qu'elle crée des besoins supplémentaires, il faut qu'elle apporte des solutions.
Question pour la directrice générale des services. Sur la communauté de communes également, vous avez combien d'agents qui sont en place, vous ?
Aujourd'hui, à la communauté de communes, ce sont 87 agents qui sont engagés au quotidien, au service des habitants et des communes.
Sur les différentes compétences, donc que ce soit la petite enfance, la voirie...
Hors petite enfance, puisque nos collègues de la petite enfance sont gérés aujourd'hui par une structure privée qui est la Mutualité Française de Haute-Garonne. Donc, mais si on rajoutait nos collègues de la petite enfance, en tout et pour tout, nous sommes environ 130-140 agents.
Monsieur le Président, si vous aviez un message à passer aux citoyens qui nous écoutent, ce serait lequel ?
Même dans nos collectivités, le fait d'avoir une dépendance financière de l'État, de plus en plus, ça nous contraint à avoir des inquiétudes, très honnêtement. Il y a une échéance 2027, moi, après mars, qui m'inquiète. Autant politique que financier, mais surtout financier, parce que qui que ce soit, il va falloir affronter, quoi. Et les 3300 milliards de dettes, il va falloir qu'ils les répercutent quelque part. Donc, je crains que nous soyons dans la cible et que ce ne sera pas forcément facile. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je sais que dans notre gouvernance, dans nos VP, dans nos maires, dans nos équipes de techniciens, il y a une volonté farouche d'affronter, de bonifier nos services et de bonifier notre intervention en tant que CCV. Dans le souci d'être toujours efficient pour montrer l'état d'esprit. Il faut savoir que c'est plutôt un message qu'autre chose, une symbolique. Mais sur les indemnités octroyées à nos élus aujourd'hui, que ce soit pour la mienne comme pour celle des vice-présidents, le Conseil a validé à l'unanimité le fait qu'on nous attribue 30% d'indemnités. Uniquement, je dis 30%. Au-delà d'une symbolique, c'est faire passer un message quand même pour dire qu'on a la volonté, on a envie, on est là pour servir et pas se servir. Ce que dire à nos concitoyens, c'est qu'ils ont une gouvernance qui représente les 32 maires de notre communauté dans un bon état d'esprit pour mener à mieux et à bien toutes nos compétences et nos apports qu'on peut faire à nos communes.
Ça, c'était pour le citoyen. Et si vous aviez un message à laisser passer aux élus ?
Continuons à être dans une osmose parfaite. Nous avons traversé des élections qui se sont passées divinement bien, puisque ma présidence est plutôt consensuelle que conflictuelle, comme ça a pu être ailleurs, et on s'en félicite. Donc, continuons à être dans cette démarche solidaire pour faire mieux ensemble. Continuons comme ça.
Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, merci beaucoup d'être venu sur le micro de Radio Galaxy.
Merci à vous. Et puis peut-être un petit message, parce que je sais que vous êtes écouté outre-Atlantique, j'ai un petit bout de ma famille qui est là-bas.
À Saint-Barth.
Alors un petit clin d'œil, je les embrasse.
Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci.
Au revoir.
Partout dans le Volvestre, la seule radio que j'écoute, c'est Radio Galaxy sur 98.5 FM.